Directons Jeux de Radio Insolite, toujours et encore dans le hangar du premier film pour parler de gastronomie. Bah oui, parce que vous savez que même si on parle souvent de cinéma sur le Festival Lumière qui se déroule jusqu'à samedi, et bien on parle aussi de gastronomie puisque nous avons un traiteur, logiquement le chapiteau dans le village Lumière où tous les VIP, tous les officiels viennent. Et bien là, le chapiteau et le village Lumière est enfermé. On va évoquer un tout petit peu la gastronomie lyonnaise avec
Yves Rouèche. Bonjour.
Bonjour Yves. Alors, première chose, pour commencer, avant de parler de tes productions, tu es un passionné de cinéma ?
J'aime beaucoup le cinéma, je ne suis pas passionné. Chez nous, à la maison, c'est mon épouse qui est passionnée de cinéma. Moi, je suis passionné de gastronomie, il faut bien partager un peu.
Est-ce qu'il y a un film qui symbolise la gastronomie ?
Un film qui symbolise la gastronomie ? Il y a un film...
La soupe aux choux !
Non. Non, j'ai regardé un film dans l'hiver dernier, dont j'ai un peu oublié le nom là subitement. Mais c'est un film qui se passe, où c'est une cuisinière française qui se retrouve dans les pays nordiques. Je suis sûr que vous connaissez. Et puis, ce sont des pays luthériens, donc ils ne sont pas habitués au plaisir, à la bonne chair. Et donc, ce film avec une actrice française, et c'est vrai qu'elle leur fait partager un repas gastronomique, c'était au 19e siècle. Et ils découvrent ça avec un peu de honte et avec beaucoup de péché, parce que c'est péché dans cette religion de prendre du plaisir à manger. Eh bien, c'est vrai que nous, on prend toujours du plaisir à manger aujourd'hui, avec la gastronomie lyonnaise surtout.
Alors, comment te présenter ? Je suis un peu ennuyeux. Tu es un chasseur de trésors, en fait.
En tout cas, on a comme beaucoup de monde, plusieurs cordes à son arc. J'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans le monde de l'édition du logiciel, ce qui m'a permis de voyager dans le monde entier et de découvrir aussi des cultures et des cuisines différentes. Et c'est vrai que la passion pour la gastronomie, moi, est née il y a une dizaine d'années, une 13 ans à peu près. Mais bon, qui suis-je ? Moi, je suis à Bourguignon, je suis né en Bourgogne, à Dijon, où j'ai vécu 25 ans, mais je suis arrivé à Lyon pour faire mes études en 1980 et j'ai plus jamais quitté Lyon. Et c'est vrai que quand on était Dijonais, on disait que la capitale de la gastronomie à l'époque, c'était il y a 50 ans, je veux dire, c'était Dijon. Mais quand on arrive dans le Lyonnais, on a vite compris que c'est pas du tout la même chose. À Lyon, la gastronomie est ancrée dans les familles, dans le fonctionnement, dans les entreprises, dans le business. C'est quelque chose de latent qui est dans la génétique des individus et des Lyonnais.
Bon, je vais être un peu basique, hein, mais je tiens à m'excuser. Dijon, c'est la moutarde, quoi.
Tout à fait. Il n'y a pas énormément de gastronomie à Dijon. Non, mais c'est pas comparable. J'ai beaucoup de respect parce que je suis bourguignon et je ne renie pas du tout mes racines, mais c'est pas du tout comparable. Il n'y a pas ce culte et il n'y a pas eu, surtout depuis le chanoine Kir qui a fait parler du Kir et qui était un élu de la République. Depuis, il n'y a pas eu de grands chefs qui ont. Il y a eu Bernard Loiseau, mais malheureusement, il est parti trop tôt. Et il n'y a pas eu de grands chefs qui ont porté la gastronomie française et la gastronomie bourguignonne. Comme à Lyon, Paul Bocuse a porté pendant 50 ans la gastronomie française et aussi la gastronomie lyonnaise. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'on soit toujours la capitale de la gastronomie aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'autrement, il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de Lyon en matière de capitale de la gastronomie.
Alors ce matin, j'avais le plaisir d'accueillir Michel Diamant, qui est à l'origine, avec d'autres, du Salon des métiers de bouche, le CIRA. Et je lui ai posé une question qui était une question qui n'est pas piège. Mais on va parler un peu plus de ta production. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre ce qu'on appelle la cuisine et la gastronomie ?
Ah oui, ça, c'est pas une question piège pour moi, parce que Lyon, on dit que c'est la capitale de la gastronomie, mais tous les ouvrages qui ont été publiés depuis que Lyon a été consacré capitale de la gastronomie, c'est-à-dire en 1934, enfin, on va dire entre 1925 et 35, puisqu'il était consacré par Kurnonski à plusieurs reprises, dans plusieurs ouvrages, on parle que de cuisine. Et surtout, c'est parce que Paul Bocuse, depuis 50 ans, est un cuisinier. Et donc, lui, il porte la cuisine partout. Si vous adressez à Gabriel Paillasson, qui est à la pâtisserie, ce que Bocuse est à la cuisine, il est excédé par ce fonctionnement. Parce qu'il dit, mais la gastronomie, ça ne se réduit pas à la cuisine. Et moi, quand je parle de gastronomie, dans cet ouvrage, ou comme dans mon précédent où j'ai raconté l'histoire de la gastronomie lyonnaise, j'intègre à la fois la cuisine, mais j'intègre aussi toutes les spécialités, que ce soit les spécialités de charcuterie, de confiserie, de pâtisserie, parce que pour moi, j'inclus cet ensemble dans la gastronomie. Donc, je fais bien la dissociation, la cuisine étant un sous-ensemble de la gastronomie en ce qui me concerne.
Oui, parce que j'aurais pu être un peu basique en disant la cuisine, c'est faire cuire des pâtes ou faire cuire du riz, alors que la gastronomie, c'est quelque chose de beaucoup plus noble.
On peut faire cette différence. Ben, on peut cuisiner comme des pâtes, comme tu le dis, ou on peut cuisiner des plats comme le gratin du chanoine qu'a fait Patrick Henri-Roux dans mon ouvrage qui est superbe. Mais bon, je ne sais pas si dans gastronomie, il y a une partie de noblesse, mais il y a quand même une notion du bien manger. Hein. Moi, je ferais la différence entre se nourrir et quand j'entends des journalistes à la télé, on va parler de nourriture, moi déjà, je m'en vais, je n'écoute pas. Quand on parle de bonne cuisine ou de gastronomie, on ne parle pas de nourriture. Ça, ce sont les gens qui se nourrissent pour vivre. Heureusement, on n'a pas forcément besoin de... Enfin, il y a des gens qui ont besoin de se nourrir pour survivre. Mais heureusement, je ne fais pas partie de ces gens-là. Et moi, je vis pour la gastronomie. Et je ne me nourris pas pour survivre ou pour vivre. Quoi. Donc, il y a cette notion de plaisir qui est fondamentale, quand même.
Est-ce que tu es un bon mangeur ?
Ah oui, oui, ça c'est bien sûr un gros avantage. C'est aussi un handicap parce qu'il faut toujours faire attention, on est sans cesse au régime. Alors c'est des périodes de dégustation, moi je fais des mâchons toutes les semaines, bon plus en cette période de Covid, mais je fais toutes les semaines avec des tas de groupes de bons vivants. Et c'est vrai que de temps en temps, il faut aussi se mettre à la restriction et se dire, bon il faut revenir à de justes consommations parce que petit à petit... Trop manger, c'est un petit peu, on prend du poids. Hein, donc il faut faire attention. En tout cas, moi, ça a toujours été mon problème. Enfin, un problème, c'est pas un problème. C'est une chose que j'ai à gérer comme d'autres gèrent d'autres problèmes. C'est un problème bien agréable finalement.
Hein. Alors, le déclic, parce que bon, c'est bien d'aimer les bonnes choses, mais le déclic qui fait que tu te retrouves devant une feuille blanche, devant des photos, et tu te dis, tiens, si je faisais un livre. Je peux résumer comme ça ?
Oui, on peut. Il y a déjà le déclic pour écrire des livres sur la gastronomie, c'est surtout celui-là. Il se trouve que j'ai eu la chance de publier mon premier ouvrage qui n'avait rien à voir avec la gastronomie. J'avais 21 ans avec un éditeur bourguignon et je retrouve cet éditeur en 2007 à Lyon et il publiait des guides des restaurants de Lyon, arrondissement par arrondissement. On va déjeuner ensemble, on passe 2 heures ensemble et en sortant de ce déjeuner, alors j'étais déjà un passionné de cuisine, vin, gastronomie, je partageais mes bonnes adresses. En sortant de ce déjeuner, je suis parti comme un fou. Je vous assure, je n'ai jamais arrêté. C'est-à-dire qu'en 3 mois, j'habite dans le Nord-Isère, j'ai fait un guide du Nord-Isère, des métiers de bouche. Donc j'ai fait 30 restaurants, 30 boulangers, 30 pâtissiers, 30 charcutiers, tous les bouchers qui existent, tous les gens qui font quelque chose qui se mangeait bien, j'ai été testé. J'ai fait ce guide en 3 mois. Et bien sûr, ce guide sur le Nord-Isère, c'est un peu réduit comme espace en termes de commercialisation. C'est pas terrible. Donc, je me suis dit, il faut élargir mon terrain de jeu. Donc, j'ai fait ensuite un almanach gourmand sur Rhône-Alpes. Et là, j'œuvrais sur les 8 départements de Rhône-Alpes à l'époque, où je déclinais toutes les spécialités, produits emblématiques, IGP, AOP, AOC, de notre belle région. Et donc, j'ai décliné peut-être 150 spécialités, aussi bien dans le Trièvre que dans le Beaujolais. Et j'ai raconté ça dans un almanach qui sortait tous les ans, pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai encore étendu mon terrain de jeu au niveau national. J'ai fait 5 almanachs nationaux, donc cette fois sur toutes les régions de France. Et puis, j'ai eu la chance en 2015 de bénéficier d'un plan de pré-retraite par ma société, où j'étais payé pendant 4 ans à œuvrer chez moi, à faire ce que j'avais envie. Et donc, je me suis dit, maintenant, je vais faire des beaux livres. Parce que faire un almanach, c'est bien, ça vaut 10 euros. Donc, les photos vont avec, c'est pas cher. Et donc, j'ai fait un beau livre sur l'histoire de la gastronomie lyonnaise. Et ce beau livre m'a pris à peu près 1 millier d'heures. Mais je suis vraiment tombé dedans, comme Obélix dans la marmite. Et une fois que j'ai terminé ce livre sur la belle histoire de la gastronomie lyonnaise, la grande histoire, j'ai été amené à consulter énormément d'ouvrages anciens. Puisque je cite mes références bibliographiques, je n'affirme rien. À chaque fois que j'affirme quelque chose, je cite les références bibliographiques. Et donc, une fois que j'ai écrit ce livre, j'ai découvert beaucoup, beaucoup de plats et de recettes emblématiques qui avaient été servis pour le baptême de la princesse Claude, la fille d'Henri II, à la Renaissance en 1548, ou au Grand Condé, quand il est venu, il était reçu par le consulat à Lyon en 1660, et puis beaucoup d'autres. Et je dis, mais tous ces plats, toutes ces spécialités que l'on mangeait sous Rabelais, etc., elles ont disparu. Et je me suis dit, il y a des centaines d'ouvrages sur la cuisine des bouchons, la cuisine lyonnaise. Mais ce sont toujours les mêmes recettes. C'est les recettes qu'on retrouve aujourd'hui dans les bouchons, dans les restaurants. Moi, je me suis dit non, je vais faire revivre ces recettes qui ont disparu, que ce soit des recettes ou des spécialités de charcuterie, de glace ou de confiserie qui ont disparu des tables et des étals des artisans lyonnais. Et c'est comme ça que je me suis mis à replonger dans ces anciens ouvrages où j'ai retrouvé peut-être, j'ai retrouvé 140 recettes anciennes, retrouvées. Parfois, comme Rabelais, il ne fait que citer un nom. Donc après, il faut rechercher cette recette, retrouver la recette ancestrale, retrouver son origine, ses auteurs, son auteur, raconter son histoire. Et puis, j'ai trouvé le beau challenge, c'était de faire revivre ces recettes en les faisant recuisiner par des chefs. Et tous les chefs étoilés de Lyon, les meilleurs ouvriers de France, pâtissiers, glaciers, cuisiniers, ont répondu favorablement. Et j'ai une quarantaine de chefs qui m'ont revisité ces recettes ou reproduit à l'identique, parfois des recettes qui avaient 3 siècles. Ça n'a pas toujours été simple. Et le deuxième challenge, c'est que pour faire un livre comme ça, où on refait des photos de plat, il faut aussi avoir un photographe. Et comme c'est le coût d'un photographe pour visiter une quarantaine de restaurants, c'est exorbitant, enfin c'est pas exorbitant, c'est un gros travail qui coûte cher à un éditeur. Donc je me suis engagé et je me suis formé pour faire ces photos et j'ai fait texte et photos dans cet ouvrage. J'ai souffert.
À ce point-là ?
Ah oui, pour la photo, c'est un métier très compliqué, la photo culinaire. C'est très compliqué parce que quand vous êtes en studio, c'est facile. Vous avez l'éclairage qui va bien, vous avez tout, vous pouvez recommencer. Mais quand le cuisinier vous amène à 10h30 l'assiette qu'il a faite et vous avez 5 ou 10 minutes, et encore là, c'est bien si vous avez ça pour finaliser. Et après, c'est fini, vous pouvez la manger, mais c'est tout. Et donc, c'est une pression que seuls les professionnels photographes maîtrisent à la perfection. Donc, je suis loin d'être un professionnel. Mais bon, je pense qu'on s'en est bien sorti.
Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elles aient disparu et que tu les aies retrouvées ?
C'est relativement simple. Si vous regardez 50 ans en arrière, il y a des tas de recettes ou des plats que l'on mangeait, mais les habitudes changent, les modes changent, les traditions changent. Les chefs qui avaient une recette emblématique viennent malheureusement à disparaître. Il y a une recette qui s'appelle la tête de veau à la déduit. Alors, Lyon n'a jamais été le lieu où on a fait un culte de la tête de veau. Cela dit, c'est probablement l'un des tout premiers traiteurs de Lyon avant la Révolution. Il avait une tête de veau à la déduit, qui est une tête de veau cuite entière, et puis après qui est panée et cuite au four, et servie entière comme ça, et avec une sauce piquante. Et donc, cette recette, elle a disparu avec son auteur. Quand il est mort, personne n'a repris cette recette. Il y a d'autres recettes, par exemple, comme les tétons de Vénus de la mère Brigousse. À Lyon, tout le monde a entendu parler de la mère Brigousse. Elle faisait en 1850 au Charpennes.
Excuse-moi, j'habite au Charpennes et je connais. On me l'a pas présentée, je l'ai pas vue, cette dame.
Pas bien du tout. Et donc, la mère Brigousse était au Charpennes et elle avait une spécialité, c'était d'organiser les enterrements de vie de garçon.
Si, par contre, j'avais entendu parler de ça, oui.
Et donc, elle faisait ce qu'on appelle les tétons de Vénus, de la mère Brigousse, tétons de Vénus à la Doria de la mère Brigousse. Ce sont une pâte à quenelle qui est façonnée en forme de sein, avec un petit téton au-dessus. Et à l'intérieur, il y a un salpicon de champignons, truffes, queue d'écrevisse et beurre d'écrevisse. Et donc, voilà, c'est servi avec une sauce nantua. Et donc, elle a fait cette spécialité pendant une cinquantaine d'années. Quand elle a arrêté son activité à la fin du 19e siècle, c'est un autre cuisinier qui a été cuisinier chez la mère Guy par la suite, qui s'appelle Charles Gueraud, qui a repris cette recette. Mais depuis 1920, plus personne, elle a disparu avec Charles Gueraud. Personne n'a, d'abord peut-être que les enterrements de vie de garçon au restaurant se faisaient moins, en tout cas. À Lyon, on ne consomme plus cette recette. C'était les deux derniers qui ont fait cette recette. Eh bien, moi, je l'ai fait refaire avec... On a eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver et à la faire, mais c'est Pascal Bonhomme des Quenelles du Soleil, l'ancien chef du Café du Soleil, qui, lui, s'est spécialisé de la quenelle. Il fait de la quenelle moulée à la main et tout. Il en fait 70 tonnes par semaine. Donc, il livre tous les restaurants. C'est énorme, lyonnais. Et donc, il m'a refait ce téton de Vénus. Et donc, j'étais vraiment, vraiment heureux d'avoir fait revivre une telle recette dont tous les Lyonnais ont entendu parler. C'est un mythe, mais on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais goûté. Moi, j'ai eu la chance de le goûter et j'ai eu la chance de le prendre en photo et de raconter son histoire.
Quand il y a eu l'inauguration du Grand Hôtel Dieu, qu'on l'a remis en place, on a lancé la Cité de la Gastronomie. Et tout cela, est-ce qu'on a retrouvé ces recettes, ce que tu as participé à l'élaboration d'une mise en lumière, d'une mise en valeur de tout cela ?
Tu parles de la Cité de la Gastronomie ?
Qui a malheureusement fermé.
Qui a malheureusement fermé, mais qui, alors je vais donner mon avis, mais j'ai jamais donné d'avis officiel parce que j'ai pas d'avis à donner sur la Cité de la Gastronomie. Pour moi, c'est un peu hors propos. C'est pas une Cité de la Gastronomie, c'est une Cité de l'alimentation. Et en plus, quand je suis un peu mes 10 ans, je dirais c'est l'alimentation pour les nuls. Donc voilà, je pense que c'était mal parti sur de mauvaises bases, qu'on n'a pas engagé les acteurs locaux, qui sont ceux qui auraient pu la faire vivre et puis lui donner une âme. C'était quelque chose sans âme. Et donc je comprends très bien qu'elle n'ait pas... Il y a eu la Covid, mais Je pense qu'elle aurait eu beaucoup de mal à vivre parce qu'il manque une âme dans cette... Il n'y a pas d'âme lyonnaise. Il y a... Vous avez deux... Enfin, je ne sais pas, Paul Bocuse ou la mère Brasier se résume à deux pancartes et puis trois casseroles. Bon, ce n'est pas possible. Faire un atlas des produits, de l'ail, tout ça, avec ses origines, bah, c'est bien, mais on trouve ça sur Internet partout aujourd'hui. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de plaisir. Hein. Je n'ai pas trouvé de plaisir. Et donc, ben, je ne suis pas le seul, puisque beaucoup de journalistes ont annoncé la Cité de la Gastronomie avant, quand elle est sortie, et il n'y a plus jamais eu d'articles qui ont loué la Cité de la Gastronomie après son ouverture, parce que je pense que ça ne répondait pas à l'attente des Lyonnais. Peut-être qu'il y avait une divergence entre leurs objectifs et les attentes qu'avaient les Lyonnais, qui attendaient quelque chose qui représente un petit peu leur gastronomie, et là c'était à peine un petit peu. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais j'espère que ça va repartir sur d'autres bases, je l'espère au plus profond de moi-même.
Je voudrais juste rappeler que nous, en 2017, on avait pris position, puisque d'une part, ben, quand on y a été, on a été abasourdi de voir que l'entrée était à 12 euros et un atelier cuisine était à 12 euros, donc ça coûtait 24 euros l'entrée. Alors imaginez quand vous veniez avec deux adultes et deux enfants. Et puis, deuxième point, quelques semaines avant l'ouverture, je ne sais même pas si on doit utiliser le mot méprisé, mais les toc-bloches ont été carrément mise à l'écart de la Cité de la Gastronomie. Alors, pour une ville qui se prétendait être la capitale mondiale de la gastronomie, évidemment. Donc, par définition pour nous, c'était un projet qui n'était pas fait par des professionnels. C'est un peu comme quand Annecy a perdu les Jeux Olympiques, enfin n'a pas été retenu dans sa candidature pour les Jeux Olympiques. On avait pris des gens qui ne savaient pas. Et si Paris a gagné, c'est à cause de Tony Estanguet. Donc ça, c'était important. Mais aujourd'hui, ce qui est très très bien, c'est qu'on consulte les Lyonnais par un référendum, mais par un vote sur Internet pour dire qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous souhaitez dans cette cité. Parce que c'est important d'avoir quand même un endroit comme ça. Il y a la Cité du Vin à Bordeaux, il n'y a pas de cité...
Oui, surtout que c'est vraiment fondamental parce qu'on a tendance à oublier. Moi, je dis toujours deux choses. J'affirme que sans l'apport de l'Italie, des Italiens de la Renaissance à 1900, Lyon n'aurait jamais été consacré capitale mondiale de la gastronomie. Mais j'affirme une seconde chose, c'est sans l'action de Paul Bocuse depuis les 50 dernières années, Lyon ne serait plus depuis longtemps la capitale de la gastronomie parce que d'autres villes se seraient emparées de ce titre. C'est un avantage énorme que l'on a, c'est un atout extraordinaire pour la ville. Et donc, M. Paul n'est plus là aujourd'hui. Donc, il faut bien avoir des choses qui vont ancrer la gastronomie dans son avenir. Et moi, je vois la Cité de la Gastronomie est une première étape qui, pour moi, serait important de la rapprocher un peu plus de la notion de la gastronomie telle qu'on la voit à Lyon, même si on veut lui donner une vocation plus générale, hein, parce que c'est pas seulement pour faire la promotion de la gastronomie lyonnaise, cette Cité de la Gastronomie. Mais bon, et la seconde chose qui est un projet énorme auquel je crois, je me suis engagé dedans aussi, en tout cas j'y participe, c'est la Vallée mondiale, la Vallée de la Gastronomie, qui est un projet porté par la région, qui elle intègre Lyon, non plus dans sa simple cité ou métropole, mais intègre Lyon dans une Vallée de la Gastronomie qui va de Dijon à Marseille et qui passe par un terroir qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Depuis la capitale des Ducs de Bourgogne jusqu'à la capitale de chrétienté à Avignon, vous avez 10 cités de la gastronomie, parce qu'il y a la Cité du Chocolat, il y a la Cité de la Gastronomie à Valrhenat, enfin, à Talermitage. Vous avez la capitale des vins de Bourgogne, la capitale des vins de Saône-et-Loire, enfin, à Mâcon. Vous avez enfin, les Halles de Lyon. On a un territoire de jeu qui est immense. Et cette vallée de la gastronomie, je pense que c'est dans lequel peut s'inscrire la cité. Hein, puis c'est une étape du parcours. C'est vraiment un projet fabuleux.
Les trésors retrouvés. Avec une préface de Guy Savoie. Guy Savoie, ça me dit quelque chose. C'est qui ? C'est un petit jeune homme qui démarre, non ?
Un petit chef, c'est un local, hein, c'est un local de l'État, puisqu'il est bergalien, il est né à Bourgoin-Jallieu, donc c'est quand même à une petite heure de Lyon. En tout cas, moi, j'habite à 10 km de Bourgoin-Jallieu, ce qui m'a permis, en faisant vibrer la corde sensible, à ce qu'il accepte pendant le confinement à préfacer cet ouvrage, parce que c'est quand même le chef qui a été consacré 4 fois meilleur chef du monde par la liste. Hein, donc c'est un moteur, on va dire, qui mouline tous les guides qui publient et qui sont publiés au niveau mondial et qui classent les chefs selon leur rang dans tous ces classements pour dire que c'est un classement indépendant, ce n'est pas un journal, parce que nos amis anglais ou américains sortent des classements des restaurants où il n'y a aucun français ou très peu, uniquement parce que c'est financé par un journal pour faire leur propre promotion. Donc il est important que la France réagisse et je suis très heureux, d'une part parce que c'est quelqu'un qui est de la région Rhône-Alpes et que ce plus grand chef du monde, consacré comme ça aujourd'hui, ait accepté de préfacer cet humble ouvrage local.
Alors, J'ai ouvert au hasard et je tombe sur la page 39. Et là, je suis désolé, hein, c'est... Qui est Philippe Bruneton pour commencer ?
Philippe Bruneton, c'est un meilleur confiturier de France qui est dans le Rhône, puisqu'il est installé à Longes, à côté d'Ampuy. Et donc, bien sûr, j'ai fait appel à lui pour cette confiture de gras de cul parce que...
Cette confiture de ?
De gras de cul, ou confiture de rose, on l'appelait comme ça. Du temps de Rabelais, on appelait ça confiture de rose. Et en fait, c'est une confiture de gras de cul qui est le fruit de l'églantier. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans le, vous avez déjà vu ça dans les l'églantier, les ronces sauvages. Donc vous avez les akènes de l'églantier qui sont après gelées. On les utilise après gelées. Hein, elles se ramollissent et on peut les utiliser pour faire des confitures. Mais à l'intérieur, il y a le poil, le fameux poil à gratter. Et donc, si vous utilisez ce fruit de l'églantier pour faire des confitures ou faire toute autre préparation sans avoir pris le temps d'enlever tous les pépins et les poils, le lendemain, vous avez le cul qui vous gratte. D'où son nom de confiture de gras de cul.
Alors, je ne sais pas si est-ce qu'on doit appeler ça un livre, une bible. Il y a des photos qui sont assez extraordinaires, tu lui as expliqué. Et là, par exemple, je suis sur la tourte lyonnaise. Ça, c'est une tradition.
C'est une tradition, mais qui ne se pratique plus à Lyon. Ce sont des trésors disparus, retrouvés maintenant. Et cette tourte, en fait, c'est quelque chose de très simple. C'est Nizier de Pitspelu, qui est un docteur es-lyonnaiserie à la fin du 19e, parle de cette tourte comme son meilleur souvenir d'enfance. Et c'est une tarte, en fait, à la confiture. On y met bien la confiture que l'on veut, mais elle a la particularité d'avoir un quadrillage de pâtes dessus. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas faite de cette taille-là, mais à l'origine, Nizier de Pitspelu disait qu'elle était grande comme le bouclier d'Ajax. Alors vous imaginez le bouclier sur lequel est un bras raccourci, moi c'est ce que j'ai en tête. Hein. Je vous dis, donc la tarte, elle fait 80 cm de large, et dessus, il piquait des calices de fleurs avec dont les pétales étaient faits en sucre cristallisé. Et puis, il y avait au milieu, sur un fil, une grosse colombe. Voilà, et on servait cette tarte, mais cette tarte, elle était déjà préparée du temps d'Apicius, du temps à l'Antiquité, du temps des Romains. Apicius donne des recettes de tarte où justement il y a ce quadrillage de pâtes dessus. Et déjà, il y a un siècle, là, quand Nizier de Pitspelu en parle de cette tarte, il y a un conflit avec de cette tourte lyonnaise, parce qu'elle s'appelle la tourte lyonnaise, il y a un gros conflit avec les Parisiens, parce que ça n'a vraiment rien à voir avec la tarte que l'on consomme à Paris. Hein. Non, non, elle est bien meilleure.
Bon, je sors du livre quelques instants. Bon, alors, tablier de sapeur, cervelle de canu.
Ah oui, mais ça, ce ne sont pas des recettes disparues. C'est pour ça que je commence mon livre en faisant un recensement des recettes que l'on a que l'on a. Et puis ensuite, je dis, je ne vais pas parler de la cervelle de canut, puisqu'on la mange partout. Tablier de sapeur, quelque chose dont j'ai parlé dans mon précédent ouvrage, mais qui n'est pas disparu, puisqu'on en mange toujours. Bon, voilà, ce sont des recettes que je n'évoque pas aujourd'hui, parce que moi, je suis un passionné, j'adore le tablier de sapeur, j'aime la tripaille, j'ai l'âme lyonnaise dans les tripes. Mais bon, ce n'est pas une recette disparue. Hein.
Il y a un truc que j'aime bien. Nous, le 29 février, on a lancé notre nouveau slogan qui s'appelle « Toute vérité est bonne à dire ». Et là, alors, je suis en page 111, carrément. Il y a marqué « Recette du véritable saucisson ». Alors, j'aimerais comprendre ce mot « véritable ».
Alors, tout d'abord, oui, parce qu'il n'y a plus de saucisson de Lyon. D'abord, je vais vous dire tout de suite, il y en a un seul qui fabrique le saucisson de Lyon aujourd'hui, c'est Georges Raynon, charcuterie Raynon, rue des Archers à Lyon. C'est tout le reste, c'est du pipeau. Il n'y a plus de saucisson de Lyon. Donc, c'est le seul charcutier qui fabrique le saucisson de Lyon selon la recette de son père, Claudius Raynon, qui était un meilleur ouvrier de France charcutier dans les années 50. Et le saucisson de Lyon, lui, existe à peu près depuis 150 ans. Et il avait la particularité d'être constitué d'un mélange de porc et de bœuf. Il y avait jusqu'à... Moi, j'ai une recette que j'ai retrouvée. Elle a presque deux siècles, où on avait 10% de bœuf pour accélérer le séchage. Et donc, c'est fait avec les meilleurs morceaux du porc. Le gras n'est pas haché. Et le gras apparaît, vous le voyez sur la photo, comme quelques gros. Vous avez sur chaque tranche 7 ou 8 gros lardons bien blancs, là. Et donc, c'est un saucisson assez foncé. Depuis les années 50, 1950, on a éliminé le bœuf parce que ça lui donnait cette couleur au séchage, couleur rouge foncé, qui n'était plus tellement à la mode. Et donc, Claudius Raynaud, enfin Georges Raynaud, le fait 100% pur porc. Mais là où c'est le véritable saucisson de Lyon, c'est que moi, je lui ai sorti la recette ancestrale. Il l'a mixé avec la recette de son père pour nous livrer la vraie recette aujourd'hui, comme il l'a fait, comme il fait le saucisson de Lyon, rue des Archers. Et donc, je dis que c'est le véritable saucisson de Lyon parce que c'est le seul charcutier qui le fabrique encore. C'est pour ça qu'il fallait préserver cette spécialité. Quand vous en trouvez partout ailleurs, eh bien, c'est fabriqué par des salaisonniers. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais c'est fait par des salaisonniers en volume dans les monts du Lyonnais ou bien plus loin.
Bon, on parle un peu des desserts parce que là, on va parler de Nardone. Alors, Nardone, c'est l'institution glaciaire lyonnaise.
Oui, et c'est une belle maison, même si depuis une dizaine d'années, il y a d'autres glaciers qui sont installés à Lyon, qui font d'excellentes glaces. Bon, moi, je suis fidèle à la tradition, donc je suis fidèle à la maison Nardone, et donc j'aurais suggéré, proposé une recette que j'ai retrouvée qui date de 1846, qui avait été faite par Menon, qui avait publié un livre qui s'appelait « La cuisinière bourgeoise ». Et dans ce livre, il y a toutes les recettes de la gastronomie lyonnaise. Donc c'est un livre à destination des bourgeoises, d'accord ?
C'était la question suivante que je préparais, zut !
Et non pas à destination des professionnels, des traiteurs de l'époque, c'était pour la cuisinière bourgeoise, voilà. Donc c'était le fromage de crème à la glace, et c'est une recette qui a été récupérée par le premier glacier lyonnais, qui était Napolitain. Je vous dis que les Italiens nous ont tout apporté, ça c'est la dernière chose qu'ils nous ont apporté pratiquement. C'est un glacier napolitain qui s'est installé à Lyon en 1762, et qui a eu 24 enfants. Et donc il a eu la chance d'avoir une longue lignée qui a porter la glace à Lyon durant tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et ce fromage de crème à la glace, en fait, il porte ce nom parce que fromage, ça vient de formage. Ça veut dire qu'on faisait une glace, une crème glacée qui était formée dans un moule qui avait la forme de cannelloni, la forme d'une baguette, la forme d'une part de fromage, peu importe. J'ai mis des exemples de moules d'ailleurs dedans. Et donc, j'ai proposé cette recette d'origine à la maison Nardone et Armel Nardone et puis Alex You et puis Gilbert Cocchicioni. Et ils ont avec plaisir, ils m'ont fait un fromage de crème à la glace que j'ai mangé, hein, je vous rassure, que j'ai quasiment tout mangé à la mûre et à la violette. Et c'était excellent. Et en plus, la photo est très belle.
Dans le livre, ce qui est important, c'est qu'on a toujours un peu l'explication, la préparation, puis les ingrédients. Ça veut dire que logiquement, ça peut être considéré aussi comme un livre de cuisine.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on livre l'histoire de la recette, l'histoire de son auteur. Je livre la recette d'origine. Et je livre la recette revisitée par un chef qui l'a réexécutée avec la photo de la recette réexécutée. Donc, ce ne sont pas des recettes très compliquées. Il y en a quelques-unes que vous ne pourrez pas refaire parce qu'il faut déjà comprendre le vieux français. Et certaines, vous aurez du mal à trouver les ingrédients. Si on vous demande de trouver des rois d'écaille ou des rois de lait ou d'autres échassiers pour aller faire la toque du chapeau de Mgr Gabriel Courtois, vous ne pourrez pas la refaire. Quand on a refait la toque du président Adolphe Clerc ici, il a fallu quand même adapter avec Georges Raynon. C'est un immense pâté croûte, c'est le cousin d'Oreiller de la Belle Aurore. D'accord, il y en avait 3 donnés par Brillat Savarin. Il l'a refaite, c'est une première mondiale. Donc elle a 2 siècles cette recette et il a fallu quand même qu'on l'adapte avec les produits qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne peut pas trouver de bec figue, donc vous pouvez prendre du perdreau, il faut trouver des volatiles apparentés. Mais il y a des pâtés, il y avait un pâté où il n'y avait que des échassiers qui sont interdits de pêche, de chasse aujourd'hui, donc on ne peut pas refaire ça parce que c'est pas possible.
Bon, ce livre, moi tu m'as un peu mis l'eau à la bouche, je me dis tiens j'ai envie de le trouver, où est-ce que je peux le trouver?
Il sort demain, 15 octobre, dans toutes les bonnes librairies lyonnaises qui vont vouloir jouer le jeu. Et je pense que le joueront parce qu'il y a toujours des lecteurs pour l'histoire, parce que c'est un livre d'histoire, un livre de référence avec toutes ces références bibliographiques. Il y a quand même 300 références de 100 ouvrages. Et puis, on va le trouver dans les librairies, puis à la FNAC, à Lyon. Après, sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer, parce que j'ai travaillé avec des éditions de Boré, qui, eux, ont un système de distribution nationale. Donc, on le trouvera relativement facilement partout. Et donc, je rajoute que en cette période de Covid, on ne va pas faire beaucoup de dédicaces, même en librairie. Et donc, vous pouvez chercher sur Facebook, Yves Rouet, vous allez me trouver. Vous m'envoyez un message et je vous fais une dédicace personnelle numérisée que vous allez recevoir. Et une belle dédicace sur un beau fond que vous allez pouvoir insérer dans votre ouvrage. Et vous aurez un souvenir comme ça, si vous le voulez.
Je tiens à préciser qu'Yves Rouet, ça s'écrit R-O-U-E-C-H-E. Et c'est le meilleur moyen quand même de le retrouver, comme vous l'avez dit. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut vous souhaiter ?
C'est le succès dans cet ouvrage et dans le prochain, parce que depuis un an, je travaille au prochain ouvrage où je change totalement de domaine.
C'est quoi ?
Je me lance pour. J'ai fait 12 ouvrages qui sont plus des livres avec des images, avec des photos et des livres d'histoire. Et là, je me lance dans un roman. Donc je ne connais pas encore le nom, mais c'est un roman historique. Vous allez tout de suite voir je vais vous donner le ton. À la première page, Paul Bocuse part à la guerre, à la libération. Vous le savez, il s'est engagé dans l'armée et il est parti en Alsace. Il a été blessé, transfusé. Malheureusement, il décède et il meurt. C'est un monde sans Paul Bocuse. Et donc, c'est un roman historique qui va conter l'histoire de son père. C'est un roman qui va conter la vie avant Paul Bocuse, du temps de son père et du temps de son grand-père. Et puis, qui va ensuite vivre dans un monde sans Paul Bocuse. Il y a un héros qui va arriver, il va atterrir ailleurs qu'à Lyon. Il va voir tout ce qu'on doit à cet homme. Indirectement, on va comprendre tout ce que cet homme a pu apporter à la gastronomie lyonnaise.
Ton jeu, la radio insolite, on est quand même en direct du hangar du premier film. Allez, la dernière question, enfin pas une question piège. Est-ce que vous avez deux films qui vous ont marqué dans votre vie, qui sont restés inoubliables ?
Alors là, c'est vrai que je vais avoir des films inoubliables. Qu'est-ce que j'ai ? Comme je vous ai dit, je ne suis pas un cinéphile, donc j'aime les films et je regarde avec plaisir tous les films qui sont un peu ludiques. Et c'est vrai que je regarde, alors ça va peut-être vous faire sourire, hein, mais je ne crache jamais à regarder à nouveau Les Visiteurs, Les Bronzés, toutes ces séries de films qui sont des films pour moi. C'est un dimanche soir, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Quand j'ai des films comme ça, je me fais plaisir. Et si mon épouse, c'est elle qui choisit, puis c'est elle la cinéphile, elle sait que je lui dirai banco parce que je passerai une bonne fin de semaine.
C'est important, hein. Je demandais ce matin toujours encore, et je demande souvent à mes invités, est-ce que vous allez au cinéma juste pour voir un film ou c'est pour vous détendre ? Moi, je sais que je suis comme vous, c'est que la comédie. Je n'ai pas envie d'aller voir des comédies dramatiques ou des trucs comme ça, quoi.
Oui, et souvent, quand je sors, même quand je vais au cinéma, si une heure après, vous me demandez ce que j'ai vu, des fois, j'oublie le nom. C'est pour vous dire que c'est vraiment pour vivre l'instant présent, un bon moment, voilà. Et je le dis, je me souviens plus des recettes de cuisine que des films que j'ai vus.
Je vous remercie.
Merci Alain de m'avoir invité.